14 h, une troisième délégation de l'hôtel de ville arrive, mais les combats l'empêchent de parvenir au pied de la forteresse. Les émeutiers ont envoyé des charrettes en feu contre le logement du gouverneur, ce qui cause des désagréments aux assaillants, aveuglés par la fumée et écrasés par la chaleur du feu et celle de cet après-midi d'été. 15 h. Pour garder le contrôle des événements et un ascendant sur le peuple, le comité de l'hôtel de ville envoie une quatrième délégation qui arrive à la Bastille munie d'un drapeau blanc. Les pourparlers sont confus et des coups de feu atteignent la nouvelle délégation. Le peuple s'échauffe encore plus. Côté Bastille, le gouverneur Delaunay, incapable de prendre des décisions cohérentes, ne sait pas quoi faire et panique. Faut-il défendre sérieusement le fort ou se rendre? Il choisit la pire des solutions, la solution intermédiaire. Il se retranche dans sa forteresse et ne se défend pas assez durement pour décourager les assaillants. 15 h 30, un fait nouveau. Une soixantaine de soldats des gardes françaises arrivent avec 5 canons pris aux Invalides le matin, suivis d'une colonne de citoyens armés et encadrés. Fini le désordre et les initiatives personnelles. On retire les charrettes en feu et on installe les canons. Les Parisiens sont plus déterminés que jamais maintenant à détruire la Bastille. Les canons des assiégeants commencent à tirer. Aucune aide ne vient de l'extérieur pour aider le gouverneur Delaunay, affolé. Aucune consigne du roi. Complètement perdu, ne sachant que faire, Delaunay s'agite et décide de faire tout sauter. Son entourage le maîtrise pour ne pas qu'il en arrive à cette extrémité. 16 h 30, à l'intérieur de la Bastille, on capitule. On souhaite arrêter la résistance et on cherche quelque chose qui pourrait ressembler à un drapeau blanc. Finalement, une serviette est agitée au son du tambour pendant près d'un quart d'heure en haut des tours. La foule a fini par voir le signal d'arrêt des combats. Le calme revient. Par une petite ouverture dans le pont-levis de la forteresse, on demande à ce que la garnison sorte avec les honneurs de la guerre. Les assaillants refusent. Tous crient « Abaissez les ponts !» Puis un message du gouverneur est passé par l'ouverture. Pour récupérer le message sans abaisser le pont-levis, une grande planche est installée qui franchit le fossé. Un premier révolutionnaire tombe grièvement blessé. Un autre arrive à saisir le message. Nous avons 20 000 de poudre. Nous ferons sauter le fort, la garnison et les environs si vous n'acceptez pas la capitulation. La foule refuse et crie abaissez les ponts. 17 h. Puis, surprise, le petit pont-levis s'abaisse. 4 invalides ont décidé d'ouvrir les portes. Le grand pont-levis est lui aussi abaissé et c'est une ruée indescriptible d'hommes remplis de haine qui s'engouffrent dans la forteresse et qui la pillent et la saccagent. Fureur et confusion font que certains des assiégeants se font tirer dessus par d'autres assiégeants qui les ont pris pour des membres de la garnison. On s'empare de Delaunay et de son second et on les conduit à l'hôtel de ville, protégés par quelques insurgés et soldats de la garde française qui veulent éviter le lynchage. Hélas, Delaunay n'a pas le temps de monter les marches de l'hôtel de ville. La foule s'empare du gouverneur et le met à mort à coups de pied, de baïonnette, de pistolet. Puis, un garçon cuisinier tranche la tête du cadavre avec son canif. D'autres exécutions sommaires se passent dans les rues autour. À l'hôtel de ville, Flesselles, le prévôt des marchands est accusé de ne pas avoir soutenu le peuple pendant le siège et doit aller s'expliquer au palais royal. Flesselles n'a pas le temps de s'y rendre. Il est abattu sur les marches de l'hôtel de ville en sortant. Et les prisonniers de la Bastille? Les révolutionnaires doivent défoncer les portes des cellules car dans leur enthousiasme, des émeutiers sont partis avec toutes les clés de la prison de la Bastille pour les brandir avec fierté dans les rues de la capitale. Une fois les portes de cellules abattues, c'est la consternation. Ils pensaient que la prison regorgeait de prisonniers. Il n'y a en fait que 7 détenus, 2 fous, 4 faussaires et un criminel. Dans la confusion, les faussaires et le criminel s'échappent et il ne reste que les 2 fous que la foule va quand même porter en triomphe. Puis, rapidement, ils vont être réenfermés à un autre endroit le lendemain. Les 2 têtes de Flesselles et Delaunay sur des pics sont promenées toute la nuit dans les rues de Paris. Les hommes ivres de fatigue et d'alcool après une nuit et une journée de tension extrême et d'efforts intenses s'effondrent et meurent d'épuisement. Les invalides miraculés ont trouvé refuge dans une caserne de garde française. L'attaque de la Bastille a fait 98 morts. Et à Versailles, que se passe-t-il le 14 juillet 1789? Rien. C'est ce qui est écrit dans le journal de Louis XVI à la date du 14 juillet 1789, journal qu'il remplit tous les jours, une ligne par jour et une page par mois, mais avec un mois de retard, se fiant à ses notes quotidiennes. C'est-à-dire que ce rien, inscrit dans ce cahier, a été écrit en août 1789, à partir de ses notes du mois de juillet. Ce 14 juillet donc, le roi n'est pas allé chasser et il n'a pas eu de réception ou de cérémonie. Rien. La reine, elle, est à son château du Petit Trianon, tout proche du château de Versailles, mais suffisamment éloignée de la cour pour mener une vie simple et champêtre, loin des fastes de Versailles. La distance entre Paris et Versailles fait que le roi Louis XVI n'est averti que le 15 juillet au matin de la prise de la Bastille. C'est le duc de La Rochefoucauld-Liancourt qui vient dans la chambre du roi annoncer la nouvelle. Ces quelques phrases sont restées célèbres. Sire, qu'y a-t-il? Les Parisiens ont pris la Bastille. C'est une révolte? Non, sire, c'est une révolution.